VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Angola, moins de 24 heures après le début du dépouillement du scrutin de mercredi, la Commission nationale électorale, CNE, compte annoncer aujourd'hui les premiers résultats partiels des élections générales. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis 1975, devrait, sauf énorme surprise, conserver la majorité absolue des 220 sièges au Parlement angolais. Et en vertu de la Constitution, son candidat, l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, 64 ans, est bien placé pour succéder au président José Eduardo dos Santos, qui prend sa retraite. La CNE s'est déclarée satisfaite du déroulement du scrutin, mais les deux principaux partis d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, et la CASAC, disent réserver leur jugement sur les élections, dont ils avaient critiqué, avant même le début de la campagne électorale, les conditions d'organisation en les qualifiant de douteuses et inéquitables. Les états-majors de l'UNITA et de la CASAC sont en conclave ce jeudi et envisagent une déclaration commune pour dénoncer des irrégularités, a confié à l'AFP un de leurs responsables. Le président José Eduardo dos Santos a décidé de quitter le pouvoir après 38 ans de règne. Quel bilan pour M. dos Santos, dont la fille Isabelle est présentée comme la femme la plus riche d'Afrique? Idriss Fall joint à Luanda, Siona Casimiro, un ancien journaliste.
Son bilan, de mon point de vue, est assez mitigé, avec des éléments qui sont favorables comme la paix, une certaine stabilité et, disons, certains développements, un boom économique, surtout dans la dernière décennie. Mais évidemment, le pouvoir s'est terminé un peu dans des notes népotiques accentuées, avec la richesse de la famille, et qui leur coûte cher d'ailleurs dans l'antipathie et dans l'hostilité, surtout de l'électorat jeune, et même de certains électorats un peu même traditionnels du peuple MPLA, n'ont pas beaucoup aimé cette inclination népotique du pouvoir et la concentration des richesses dans ce groupe.
Siona Casimiro, un ancien journaliste à Luanda, en Angola. En RDC, la police congolaise a dispersé mercredi des manifestants à Butembo, dans le nord-est du pays. 25 personnes ont été appréhendées. Les détails avec John Lindon.
Selon le colonel Richard Mbambi, chef de la police de Butembo, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors que d'autres tentaient de barricader les rues ou jetaient des pierres aux policiers. Il a confirmé l'arrestation de 25 personnes pour trouble à l'ordre public et a assuré qu'elles répondront de leurs actes. Un responsable de la société civile de Butembo, Edgar Matezo, a expliqué de son côté que l'interpellation a eu lieu lors d'une manifestation d'habitants qui entendaient protester contre la recrudescence de l'insécurité dans cette ville commerciale de plus de 1,1 million d'habitants. La manifestation a eu lieu à la suite d'une attaque menée par des bandits contre des habitants dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont emporté des biens de valeur. Les manifestants ont également dénoncé la lenteur des forces de sécurité pour intervenir. Depuis le début de l'année, les habitants de Butembo dénoncent régulièrement l'insécurité grandissante dans cette ville du Nord Kivu, une région déchirée par des conflits armés depuis plus de 20 ans.
Afrique du Sud, la jeune femme qui accuse la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, de l'avoir agressée, a saisi la justice sud-africaine pour obtenir une annulation de l'immunité accordée à l'épouse du président Robert Mugabe. Gabriela Engels, une mannequin de 20 ans, a déposé plainte pour coups et blessures contre Grace Mugabe. Elle accuse Madame Mugabe de l'avoir frappée avec une prise et un câble le 13 août dans un hôtel de Johannesburg. Mercredi, l'opposition a demandé des explications au vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa dans ce dossier sensible.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Togo, un regroupement de partis de l'opposition togolaise a appelé à marcher à Lomé les 30 et 31 août pour exiger notamment des réformes politiques, selon un communiqué rendu public mercredi soir. L'opposition togolaise réclame depuis 10 ans que la constitution modifiée en 2002 soit révisée, notamment afin d'y réintroduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans ou plus. Les opposants exigent aussi un mode de scrutin à deux tours, ainsi qu'une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Le Parti national panafricain PNP, le combat pour l'alternance politique CAP 2015, qui regroupe 5 partis, et un autre regroupement de 6 partis demandent également la libération des personnes arrêtées le 19 août lors des manifestations du PNP réprimées dans plusieurs villes du pays. Au Mali, les banques et assurances en sont aujourd'hui à leur troisième jour de grève. Ce débrayage fait suite au licenciement jugé abusif d'un leader syndical. Mais les fonctionnaires dont le salaire est viré directement à la banque ne sont pas contents. La population non plus, étant donné que la Tabaski, la fête musulmane du mouton, avec toutes les dépenses familiales qu'elle implique, approche. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Oui à la grève des travailleurs des banques et établissements financiers. Oui au soutien à leurs camarades du NCA. Mais ils ont oublié d'assurer le service minimum.
Moi je pense qu'ils sont dans leur droit de gréver. Mais ce que je déplore un peu, c'est le fait que le service minimum n'est pas assuré dans les banques et assurances. Surtout à quelques jours de la fête, ça paralyse beaucoup l'économie. Et surtout nous les citoyens, ça nous fatigue trop. J'ai été à l'éco-banque, vu que tout était fermé, c'était le guichet automatique seulement qui fonctionne. Bon, il y avait toute une foule là-bas. J'ai dit que la grève, c'est noble, mais le service minimum devrait être respecté.
Pour le syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, en plus du licenciement jugé abusif du secrétaire général du comité syndical de NCA, il y a d'autres violations. Amadou Mba, secrétaire administratif du SINABEF.
On licencie un syndicaliste parce qu'il a revendiqué un droit légitime. D'ailleurs, les camarades ne sont même pas rentrés dans leurs droits. Là-bas, à NCA, on les insultes comme des malpropres. Vous rien, incompétents, nous on va vous renvoyer, vous allez voir, vous êtes des nuls. Un directeur qui s'adresse comme ça à ses employés. La seconde chose que nous avons constaté chez nous, c'est que tous les travailleurs de NCA qui ont observé les sittings, ils ont été sanctionnés par la direction de NCA. Vous voyez quel mépris, tous les travailleurs.
Ce mot d'ordre de grève de 72 heures a concerné l'ensemble du secteur des banques et établissements financiers du Mali, avec des conséquences incalculables pour les populations, surtout en cette veille de fête de moutons. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Soudan, l'ambassadeur de Russie au Soudan, Mirgaya Shirinsky, retrouvé mort hier dans sa piscine à Khartoum, est décédé d'une crise cardiaque, a indiqué ce jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. Les autorités soudanaises avaient indiqué à l'AFP dès mercredi soir écarter la piste criminelle, estimant que, selon les enquêtes préliminaires, l'ambassadeur était décédé de mort naturelle. Ambassadeur au Soudan depuis décembre 2013, Mirgaya Shirinsky, qui parlait arabe et anglais couramment, avait auparavant servi comme ambassadeur de la Russie au Rwanda de 2006 à 2013. En Libye, au moins 9 combattants et 2 civils ont été décapités mercredi lors d'une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a été perpétrée contre une position des forces loyales à Khalifa Haftar. Le groupe État islamique dit avoir tué et blessé 21 combattants de l'armée nationale libyenne, autoproclamés par le maréchal Khalifa Haftar. L'ANL s'est emparée début juin du sud de Tripoli, qui compte une base militaire aérienne. Les forces loyales au maréchal Haftar accusent leurs rivaux de terroristes et attribuent souvent les attaques au groupe État islamique. Haftar a annoncé début juillet la libération totale de Benghazi. Cependant, des affrontements continuent dans le centre de la ville. La Libye est déchirée par des conflits entre milices et 2 autorités rivales. Le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, qui est confiné à Tripoli, et une autorité dans l'Est avec le soutien du maréchal Haftar.
En Syrie, les forces pro-régime ont réussi à encercler totalement le groupe djihadiste État islamique dans des régions désertiques du centre du pays. Un succès qui a permis à l'armée syrienne de couper les lignes de ravitaillement de l'EI. Damas veut chasser complètement les djihadistes de ces régions avant de lancer la bataille cruciale de Deir ez-Zor, la dernière province syrienne aux mains de l'État islamique. Et pour terminer, une commission internationale dirigée par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a appelé ce jeudi la Birmanie à donner plus de droits à sa minorité musulmane des Rohingyas, faute de quoi elle risque de se radicaliser. À moins que des solutions aux problèmes soient rapidement trouvées, il y a un vrai risque de radicalisation au sein des 2 communautés musulmanes et bouddhistes, souligne le rapport final de cette commission formée en 2016 à la demande de la chef de la diplomatie birmane, l'ex-opposante Aung San Suu Kyi. Merci de votre attention.
Thank you.